L'été se poursuit et la grande table d'été se met à l'abri, profitant de la fraîcheur des cinémas et des musées. À 13h30, le performeur Justin Scholder, en résidence au Palais de Tokyo, dans le cadre du programme La Manutention, viendra nous faire découvrir ces mondes imaginaires, inspirés des mythologies ancestrales queer et philippines. En attendant, nous allons nous intéresser à la libération LGBT+, au cinéma, 50 ans après les émeutes de Stonewall à New York. Une exposition, Chant d'amour, à l'Hôtel de Ville de Paris, et une rétrospective à la Cinémathèque, reviennent sur 100 ans de lutte, de cinéma arc-en-ciel et de révolution visuelle. Stéphane Gérard, réalisateur de Rien n'oblige à répéter l'histoire, diffusé lors de la rétrospective Libération sexuelle, révolution visuelle, est aujourd'hui parmi nous pour l'évoquer, aux côtés de l'un des commissaires de l'exposition Chant d'amour, le journaliste et auteur Didier Roth-Bettoni. Bienvenue à tous sur France Culture.
Grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane Gérard, vous, votre film a été diffusé lors de cette rétrospective de la Cinémathèque. Et vous, Didier Roth-Bettoni, vous êtes l'un des co-commissaires, puisqu'il y en a trois ou quatre.
Cinq
même, qui justement participent de cette exposition Chant d'amour.
Oui, tout à fait.
Alors, Chant d'amour à l'Hôtel de Ville, c'est des extraits de films diffusés sur les écrans, mais ce sont aussi des documents, des photos.
Oui, il y a beaucoup de photos,
des cartes,
beaucoup d'affiches, beaucoup d'installations, et puis une centaine d'extraits de films de toutes origines et de tout genre. On a essayé de couvrir 100 ans d'histoire, 100 ans de représentation des gays, des lesbiennes et des personnes trans à l'écran.
Alors, une sorte de partenariat entre ces deux événements-là, et au cinéma, votre film a été diffusé. Je vous propose, Stéphane Gérard, d'en entendre un extrait.
I'm Perry Brass. I'm a writer. I live in New York, in the Bronx, actually.
My name is Deborah Adel, and I'm one of the co-founders of the Lesbian History Archives.
I'm just Jim Hubbard, and I'm an experimental filmmaker.
Hey, my name is Sarah Shulman. We're in my apartment here on 9th Street. I'm a writer, and I'm a college professor.
Queerocracy allows us to actually, embrace, discuss, and push to the forefront a lot of the things that the rest of society doesn't seem to prioritize.
I mean, the mission of the Audre Lorde Project is also about mobilization, political education, and building capacity.
So BAD, the Bronx Academy of Arts and Dance, is a South Bronx theater and presenting space that presents empowering works for women, people of color, and the LGBT community.
Stéphane Gérard, vous êtes coprogrammateur de cette rétrospective de la Cinémathèque. Et là, c'est un extrait de votre film qu'on vient d'entendre, Rien n'oblige à répéter l'histoire. C'est le tout début qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe sur l'écran ?
Il se passe rien. Il n'y a pas du tout d'image. Donc juste avant d'entendre les voix des sept personnes, ou sept conversations qu'il y a pendant le film, il y a un écran qui explique qu'on va rentrer dans une sorte de voyage à travers l'histoire des luttes LGBT à New York et de leur transmission à travers plusieurs générations. Et que cette histoire-là peut pas s'écrire avec une seule voix, mais plutôt avec une voix collective, parce que c'est une histoire collective. Et donc l'enjeu de cette introduction, c'est d'expliquer pourquoi on a plusieurs conversations. Le sens, c'est comme cette communauté est constituée d'une diversité d'identité, d'expérience. C'est avec plusieurs conversations qu'on peut espérer comprendre ce qui la constitue et ce qui constitue son histoire.
Alors l'un des points communs que l'on retrouve à la fois à la Cinémathèque dans cette rétrospective et dans l'exposition, c'est cette idée de recul historique sur cette histoire LGBTQI+. Une grande question dont rien n'oblige à répéter l'histoire dans votre film se pose, Stéphane Gérard, c'est celle de l'archivage. C'est celle des archives de tous ces mouvements politiques, militants et de toutes ces actions dont on n'a pas toujours trace.
Oui, absolument. Pour moi, c'était essentiel. Bon, déjà, c'était mon expérience en tant que jeune PD et puis militant ensuite de me poser cette question de quelle était l'histoire des luttes qui m'avaient permis aujourd'hui à moi de mobiliser et de rentrer dans ces mouvements et même juste de faire un coming out, de mettre des mots sur cette expérience.
Petite parenthèse, vous utilisez le terme jeune PD, réapproprié.
Absolument. Comme le mot queer en anglais. Voilà, moi, je viens d'une culture militante où on a réapproprié l'insulte et où certaines personnes considèrent que si c'est un mot qui désigne l'homosexualité, bah, libre à nous d'en faire un usage quotidien. Mais après, évidemment, pas libre à tout le monde d'en faire une insulte. juste. Voilà. En tout cas, voilà, s'il y avait cette idée de chercher l'histoire de ces communautés et l'absence d'archives dans la ville où je vis, donc à Paris. Et par ailleurs, mes recherches m'avaient fait découvrir qu'il existait beaucoup de lieux patrimoniaux autour de ces communautés à New York. Donc je suis parti en voyage aux États-Unis pour essayer de comprendre comment les militants, militantes sur place avaient constitué ces archives, se saisissaient de cette histoire et comment la connaissance de cette histoire nourrissait leur lutte. Et donc le projet du film, c'est cet aller-retour entre le passé, le présent et un avenir défini collectivement, mais aussi entre la façon dont cette histoire et ces luttes s'est développée, installée aux États-Unis et de comment elle pourrait apprendre de façon internationale jusqu'à Paris et comment ça pouvait nourrir ensuite nos luttes et notre mobilisation à Paris.
Alors avec Stéphane Gérard, ce parti pris théorique qui veut que si on n'a pas d'archives, si on n'a pas de représentation et de preuves filmées, photographiées de ces actions collectives de militantisme, alors à chaque action, il faut tout reprendre à zéro.
Alors il y a cette idée-là, et puis il y a aussi que là du coup cette version-là, c'est vraiment que ces preuves ou ces archives, ces traces seraient des témoignages précis de l'histoire et qu'elles nous permettent de tout comprendre. Mais je pense que si elles sont des inspirations, qu'elles sont juste la connaissance d'une existence, d'une lutte. Je pense que le problème de ces communautés qui sont des minorités, c'est l'invisibilité, la disparition, et que si on n'a pas accès à ces archives, on a déjà l'impression de tout devoir recommencer ou tout inventer, alors que il y a la seule idée qui ait pu y avoir une créativité très fertile dans des luttes précédentes invite soi-même à se rendre soi-même créatif et du coup potentiellement pas forcément de répéter mais aussi d'inventer de nouvelles formes, mais voilà de s'en sentir capable et de s'inscrire dans une histoire, de se sentir sans doute moins seul dans ces luttes.
Une invisibilité que vous dont vous dites dans le film, dont il est dit plusieurs fois qu'il existe aussi au sein de la communauté LGBTQI+, hein, puisqu'on va voir que les lesbiennes sont plus invisibles qu'une partie de la communauté, qu'il y a aussi la question de la communauté gay blanche ou pas, que d'autres segmentations existent à l'intérieur qui posent d'autres questions de représentation. Cette histoire, elle a commencé aussi dans l'exposition avec un film, Didier Roth-Bettoni, et ce nom emprunté justement au film de Jean Genet, Un chant d'amour.
Oui, tout à fait.
Même si vous l'écrivez pas pareil.
Voilà, on a un tout petit peu détourné l'orthographe.
C'est AMPS pour vous?
Voilà, AMPS et amour au pluriel, alors que Jean Genet, c'est un chant d'amour, chanson. Voilà. Donc oui, on est parti de l'idée aussi qu'il fallait donner des traces de cette histoire et de rappeler que cette histoire des représentations des gays, des lesbiennes, des trans n'avait pas commencé récemment. Que c'était une histoire qui remontait quasiment à la naissance du cinéma et qu'elle a pris des formes très diverses, des formes quelquefois offensives, mais aussi quelquefois des formes militantes très tôt. Et on démarre l'exposition avec un film qui a 100 ans, c'était un des points de départ de l'exposition, puisqu'on couvre 100 ans de cinéma arc-en-ciel, un film de 1919, un film allemand, qui s'appelle « Autre que les autres », dont l'idée est justement de Richard Oswald, produit par un grand sexologue qui s'appelait Magnus Hirschfeld, dont l'idée était justement de dénoncer les discriminations dont les homosexuels étaient victimes dans l'Allemagne du début du XXe siècle. On avait déjà là une forme de militantisme, une forme très affirmée de militantisme.
Qui d'ailleurs, ce film va subir en partie la destruction des nazis.
Des nazis, en 1933, c'est une des premières choses que les nazis font. Ils détruisent le centre de sexologie de Magnus Hirschfeld, l'institut de sexologie de Magnus Hirschfeld, et les 20 000 volumes d'archives qui sont là, et toutes les copies de ce film, autres que les autres, dont on ne va retrouver que des traces.
Qui sont dans l'exposition, hein,
il y a des extraits, il y a des photos. Oui, c'est une histoire très très forte de ce film, d'autant que c'est presque un cas unique, quoi. C'est ça qui est fascinant avec ce film, c'est que en 1919, il y a cet acte politique, militant et artistique, parce qu'il est aussi porté par un grand cinéaste de l'époque, par de très grands acteurs de l'époque. Donc c'est pas du tout un film de second rayon, mais que cet acte politique et artistique est quasiment un acte unique. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre 40 ans pour trouver l'équivalent.
Alors il y a cette destruction par les nazis, ça ne sera pas le seul et qui va être annonciateur des déportations des triangles roses.
Oui, tout à fait.
Que vous allez évoquer aussi dans l'exposition. Pour revenir au titre, Un chant d'amour, il y a ce film de Jean Genet. Je vous propose d'écouter Niko Patakis, qui était producteur du film. Il en a parlé sur France Inter, c'était le 24 février 2003.
Comme j'avais de l'argent, c'était une revanche pour moi de l'argent qu'il m'avait refusé de lui permettre de faire un film érotique. Si on était pris sur le fait, on était bon pour la pour atteinte à leur bonheur, etc. Mm-hmm. On était bon pour l'abri, pour la prison. Et on avait monté le décor à la Rose Rouge même, parce qu'il y a le premier étage de la Rose Rouge, était une brasserie qui n'était pas occupée. On montait le décor. Il y a eu donc des jeunes délinquants qu'il allait chercher à Montmartre, qui étaient susceptibles par la suite de me faire du chantage à moi et de me faire tirer de l'argent parce que ils ont tourné dans un film érotique nu en train de se masturber ou autre, etc. Donc c'était un risque énorme à prendre, non seulement esthétiquement parlant, si je puis dire, mais en soi. Mais je ne le regrette pas de l'avoir fait.
Didier Roth-Bétonnier, on entendait donc Niko Papatakis, producteur du film en 1950. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Alors, bien sûr, il y a eu le risque, un risque à la fois esthétique et un risque réel.
Oui, un risque à tous les niveaux. C'est-à-dire que Jean Genet, avec ce film, son seul film, seule réalisation de Jean Genet.
Alors, film muet, qu'il faut peut-être un peu décrire.
Alors voilà, film
de la musique.
Film muet d'une vingtaine de minutes qui se passe dans une prison, et c'est une espèce de danse érotique entre des prisonniers, un gardien. Il y a quelque chose de très sensuel et très symbolique, beaucoup de symboles sexuels, l'utilisation d'une paille entre deux cellules, d'un revolver qui peut apparaître comme une fellation. Enfin, il y a beaucoup de symboles très érotiques dans le film, donc c'est un film très transgressif. De ce point de vue-là, c'est un film qui est fait dans une sorte de clandestinité totale, qui va avoir une diffusion clandestine également tout à fait très longue, hein, puisqu'il va être quasiment interdit de diffusion normale jusque dans les années 70. Donc c'est un film qui a une là aussi une vie tout à fait particulière, et surtout qui a une puissance esthétique très forte.
Alors il faut raconter cette puissance esthétique. Il est très allégorique. Ouais. Il y a beaucoup d'images. Ça démarre avec justement ce gardien de prison qui va rentrer. Et on voit les mains des prisonniers à travers les barreaux, un bouquet de fleurs qui se balance comme s'ils allaient se passer le bouquet l'un à l'autre. Et cette histoire de communication entre des prisonniers homosexuels à travers la paroi du mur.
Oui.
Une histoire qui se fait et qui est empêchée.
Exactement, c'est exactement ça. C'est une histoire qui se fait et qui est empêchée. C'est exactement la bonne formule pour décrire ce qui se passe à l'écran. Et ce qui se passe aussi, finalement, en fait, ce n'est que la transposition de ce que vivent à l'époque d'innombrables homosexuels en France et ailleurs, mais notamment en France. Donc ce film installe aussi une forme de diversité dans le cinéma, une forme de nouveauté, de quelque chose qui était invisible. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, le fait de rendre visible l'invisible, c'est un des vrais enjeux aussi pour nous dans l'exposition.
Alors Stéphane Gérard, on voit que dès le film de Jean Genet, la question ethnique est évoquée, puisque l'un des personnages est noir dans le film. La question de la différence d'âge entre les prisonniers, entre des partenaires sexuels, est évoquée aussi. Ces questions-là, elles sont en jachère dès le début du cinéma.
En tout cas, oui, pour les questions qui nous amènent aujourd'hui sur les représentations de la diversité des désirs et donc évidemment des orientations sexuelles ou des identités de genre, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que quand on parle de ces marges, en fait, c'est par négation à une norme qui est la norme hétéro-patriarcale, qu'on pourrait la nommer, donc et que cette marge là, elle se construit à tous les niveaux du désir, et qu'en effet, y compris dans la loi, donc la discrimination envers les homosexuels historiquement en France, elle s'est aussi faite au niveau de l'âge de la majorité sexuelle pour les rapports homosexuels par rapport aux rapports hétérosexuels. Donc la question de l'âge, par exemple, était un gros enjeu pour les militants et donc les cinéastes de cette époque qui luttaient contre cette question de la discrimination. Évidemment, le rapport à la racialisation des corps, donc comment le désir se construit dans des communautés occidentales qui héritent d'une histoire raciste, coloniale, vers des corps qui sont non blancs, c'est très présent y compris dans le cinéma homosexuel, d'abord par parfois la présentation de désirs exotisés, l'orientalisme, etc. Et puis ensuite, en réaction, je pense par exemple à un cinéaste très important pour moi et pour toute cette histoire, Marlon Riggs, états-unien, qui reprend la parole, donc lui, réalisateur africain, afro-américain, qui est homosexuel, qui décide de raconter la singularité de son expérience d'homme gay noir, du désir des hommes noirs pour d'autres hommes noirs, et qu'il définit comme un acte révolutionnaire.
Alors, filmer à cette époque de censure est évidemment déjà un acte militant et un acte politique. Le film de Jeunet va être censuré pendant 25 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire, Didier Rodbétoni, justement, de cette histoire de la censure, puisque cette histoire du cinéma LGBT+, elle commence par cette histoire de la censure. C'est d'ailleurs l'une des sections de votre exposition, de cette exposition Champ d'amour.
Oui, la censure sous diverses formes. Hein. On a essayé de montrer justement à quel point la censure pouvait être diverse, très mobile finalement. C'est-à-dire que, alors, dans le cadre du cinéma français, dans le cadre de ce qui arrive à Jean Genet, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas une censure officielle dans le cas de Jean Genet, puisque comme c'est un film fait à la marge et diffusé à la marge, il n'y a jamais de demande de visa de diffusion, donc le film n'est jamais officiellement censuré. Pourtant, il est très difficilement diffusable. Mais ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, c'est que notamment à Hollywood, dans les années 30, 40, 50, il y a un code de censure qui s'impose et qui interdit aux réalisateurs, d'abord dans un premier temps, de montrer des homosexuels, puis, quand il l'autorise à les montrer, c'est sous un angle toujours extrêmement négatif et extrêmement hostile. Donc, il y a cette volonté-là de cette censure-là. Il y a la censure qui va interdire et qui interdit encore dans certains pays du monde. On essaie aussi de montrer dans l'exposition la variété des origines des films qui parlent d'homosexualité et aussi que dans certains de ces pays, aujourd'hui encore, des films sont interdits. Un film comme Rafiki, film kényan présenté l'année dernière à Cannes, où il a eu un très bel écho, est interdit dans son pays, le Kenya, parce qu'il représente une relation amoureuse entre deux femmes. Et il n'est autorisé que pendant une semaine, juste pour pouvoir concourir à l'Oscar du meilleur film étranger. Donc, on voit bien que la censure, elle existe toujours, qu'elle peut être aussi économique.
Donc, elle est opportuniste, parfois.
Qu'elle est opportuniste, qu'elle peut être économique, qu'elle peut être tout ce qu'on veut. Enfin, un film comme Boy Erased, film américain, là encore, a été censuré par son propre producteur, son propre distributeur au Brésil pour ne pas déplaire au président Bolsonaro, puisque c'est un film qui dénonce les thérapies de conversion alors que le président Bolsonaro y est favorable. Donc on voit bien que la censure, elle prend des formes extrêmement diverses et qu'elle est effectivement, elle a existé de façon très forte dans les pays occidentaux dans les années 40, 50, peut-être un peu après, mais qu'elle continue à exister aujourd'hui de façon très forte dans toute une série de pays du monde.
Alors Stéphane Gérard, vous, dans votre film « Rien n'oblige à répéter l'histoire », la visée documentaire, c'est aussi d'interroger des acteurs militants qui ont créé des lieux, des espaces artistiques en parallèle, qui sont en même temps des lieux de militantisme. Et ça a créé cet espace-là. On disait qu'il y avait peu de lieux de diffusion, que même avant la censure, il y a la question de pouvoir diffuser une œuvre qui avait un contenu lié à l'homosexualité ou pas, d'ailleurs. Et cette étiquette qui était collé aussi à certains poètes. Il y a justement cette question-là qui est évoquée dans votre film, la question d'avoir un espace d'expression.
Absolument.
Pour ses motifs, d'un point de vue artistique.
Exactement. Ouais. Celui qui est un peu au cœur du film pour moi, parce qu'il a été très important dans mon voyage à New York, c'est le festival du film expérimental queer, d'abord gay et lesbien, puis queer, Le Mix, qui a été créé en 1987 par le réalisateur Jim Hubbard et la romancière et aussi réalisatrice Sarah Schulman, et qui expliquait en effet que leur premier désir pour ce festival, qui a maintenant plus de 30 ans d'existence, c'était juste d'avoir un espace ou montrer leurs films qui étaient à la fois expérimentaux et qui adressaient des questions de sexualité, d'homosexualité et puis plus tard de transidentité, etc. Qui n'étaient pas montrés ailleurs pour des raisons là aussi qu'on peut qualifier parfois de censure. Les festivals de cinéma expérimental ne s'intéressaient pas à ces... à ces questionnements-là, à ces identités-là. Et puis les festivals, les rares espaces qui montraient à cette époque-là du cinéma LGBT ne programmaient pas de cinéma expérimental. Donc leur projet, ça a été de se dire on va créer notre propre lieu pour accueillir tous ces films. Et c'est comme ça que des personnes qui sont avant tout artistes, cinéastes, etc., se retrouvent à la fois à faire de la programmation, se retrouvent à créer des espaces concrètement. C'est la même histoire, par exemple, pour la Bronx Academy of Arts and Dance, BAD, pardon, qui est un lieu pour la performance dans le Bronx à New York, un quartier très très populaire, où deux artistes, un romancier, Charles Rice Gonzalez et le chorégraphe Arthur Aviles décident de créer ce lieu-là, d'abord pour montrer les spectacles d'Arthur et de sa compagnie, et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'il y a d'autres artistes dans la même situation qu'eux qui n'arrivent pas à montrer leur production, et du coup, ils les accueillent, ils inventent des festivals en fonction des
difficultés qu'ils rencontrent et qu'ils découvrent. Alors, c'est l'idée aussi que derrière cette invisibilité, il y a aussi des questions sociales qui se posent. On parlait des questions ethniques, il y a aussi des questions sociales. La question du Bronx, elle est évoquée. La question de la gratuité pour les militants aussi.
Oui, complètement. Alors là, par exemple, c'est quelque chose dont je suis très très content avec l'exposition Champ d'amour, c'est que c'est une exposition gratuite. C'est-à-dire que c'est évidemment difficile de créer des espaces parce que, en particulier dans nos villes, une ville comme Paris, où les loyers sont très chers, donc trouver des lieux pour qui accueillent des événements qui sont pas forcément rentables, qui s'adressent à des communautés qui ont pas énormément de ressources, soit parce qu'ils sont jeunes, soit parce que l'emploi c'est compliqué. Donc par exemple, les événements pour des communautés trans qui, par ailleurs, rencontrent dans la société, comme vous le pointez à juste titre, des problèmes pour se loger, trouver du travail, juste obtenir des papiers, etc. Bah, c'est compliqué de faire des événements qui leur sont spécifiquement adressés et de les financer. Donc d'avoir des possibilités de subvention, d'accès, y compris sur des questions financières, c'est essentiel. Donc voilà, un lieu comme BAD, ils se sont très tôt posé la question. Et je suis voilà à Paris, c'est toujours une problématique qu'on a à l'esprit. Là, par exemple, la ville de Paris et la Cinémathèque ont fait un effort pour la programmation de donner des partenariats avec des lieux communautaires comme le Centre LGBT ou le Ciné-Club Le Septième Genre, qui permettait aux personnes régulières de ces espaces d'avoir accès aux séances pour un prix réduit. Voilà. Donc, je pense que dans la mesure du possible, c'est très important de penser cette accessibilité.
Alors, ce que montre cette exposition Didier Roth-Bettoni, c'est que certes, là, on célèbre en ce moment les émeutes de Stonewall, mais que finalement, c'est bien avant la contre-culture, bien avant le militantisme des années 60 aux États-Unis que ce cinéma est né.
Oui, je parlais tout à l'heure du film de Richard Oswald.
Du film allemand, voilà.
Autre que les autres. Mais de façon très, très, plus forte, enfin, pas plus forte, mais en tout cas plus massive, j'ai envie de dire, dès les années 40-50, se met en place, en marge du cinéma mainstream, du cinéma de la production traditionnelle, se met en place par un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices très investis dans le champ de l'expérimental, du cinéma d'avant-garde, du cinéma underground, un cinéma tout à fait identitaire, j'ai envie de dire, un cinéma dans lequel ces cinéastes prennent en charge leur image, l'image d'eux-mêmes, l'image de leur homosexualité, pour la transmettre d'abord à un public intéressé par ces questions-là, puisque c'est pas du cinéma qui va circuler dans les circuits traditionnels, mais plutôt dans des festivals, plutôt dans des projections privées.
Pendant longtemps, d'ailleurs.
Pendant très longtemps, jusque dans les fin des années 60. Hein. Donc c'est un cinéma qui va avoir une vie en parallèle, mais qui va permettre de s'approprier les images de l'homosexualité et de proposer des images infiniment plus variées, infiniment plus directes, infiniment plus plus riche que les images stéréotypées d'une certaine manière qui pouvaient être proposées dans le cinéma habituel.
Alors si l'histoire du cinéma est bien antérieure aux événements, c'est peut-être cette ouverture qu'ont proposé les années 60 et cette contre-culture. Je vous propose d'écouter Edmund White sur France Inter en parler. C'était le 12 octobre 2004. Il va parler de ces émeutes de Stonewall.
C'est curieux parce que j'ai vu dans ma propre vie que un événement historique peut changer ta nature intime. Et pour moi, c'était Stonewall. Stonewall était 1969 et c'était à New York et c'était pour la première fois les homosexuels ont résisté à la descente des flics parce que les flics ont voulu fermer encore un autre bar homo Et puis, on a battu contre eux. Il y avait une dispute pendant 3 jours qui était comme notre jour de la Bastille. On a inventé sur le champ des slogans comme « Gay is good » parce que les gens disaient « Black is beautiful » à l'époque, d'être noir est beau, donc d'être pédé est bien. Et pas tout de suite, mais bientôt après, je me suis senti libéré.
Alors l'écrivain Edmund White, qu'on entend dans un très beau français, justement parler de ces événements. Ces événements, ça va être le début de la fierté, de la marche des fiertés, de la Gay Pride.
Oui, oui, et plus largement même, c'est le début de ce qu'on peut considérer comme le mouvement militant LGBTQI moderne. Enfin, c'est vraiment... Alors peut-être que c'est une forme de mythe, hein, puisqu'il y avait eu plein de choses avant. Il y avait déjà eu ce type de révolte contre des descentes de police dans d'autres bars, notamment à San Francisco 3 ans plus tôt. Mais peu importe, l'important c'est qu'à un moment donné, quelque chose se cristallise autour de ces émeutes qui va donner lieu dans les mois et les années qui suivent à l'émergence partout dans le monde occidental de groupes militants, de festivals, de manifestations, de Gay Pride, un peu partout. Dès l'année 70, à New York, il y a la première Gay Pride. En France, il y a en 71 la création du FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui va s'agréger lors des manifestations du 1er mai avec le MLF pour participer à ces manifestations. Il va y avoir en Angleterre exactement le même type de fonctionnement. En Allemagne, en Italie. Enfin, il va y avoir un foisonnement dans la suite de Stonewall qui va faire que ce mouvement, qui était encore en gestation, qui n'était représenté que par des associations pas militantes dans le même sens du terme, va apparaître. Et en fait, ça n'est que le prolongement des mouvements des droits civiques aux États-Unis, que le mouvement des droits des femmes qui apparaissent un peu partout, que le mouvement de protestation contre la lutte contre la guerre du Vietnam. Voilà, c'est une sorte de prolongement de tous ces mouvements-là.
De libéralisation, alors de militantisme, mais aussi de libéralisation, de libération des corps. Stéphane Gérard, vous êtes revenu sur cette histoire par étapes. Qu'est-ce qui vous intéressait ? Est-ce que c'était finalement les différentes étapes ? Est-ce que c'était la technicité aussi de l'organisation de ces mouvements militants aux États-Unis ? Vous posez des questions très précises au micro, vous demandez, mais c'est quoi la notion de communauté ? C'est quoi cette notion d'accountability que vous mettez en avant aussi dans votre documentaire ? Il y avait des termes très précis que vous cherchiez.
Ouais, je pense
des définitions.
J'avais en fait en fond de la démarche historique, il y avait bien sûr la question de quoi faire aujourd'hui, et je pense que j'arrivais à New York avec les questions présentes qui me travaillaient à Paris et qui était autour de justement faire communauté en prenant compte des divisions internes. Donc ça, c'était vraiment, j'avais vraiment cette envie de demander, voilà, est-ce que dès le début de ces mobilisations dont vient de parler Didier, il y avait des consciences de divisions internes. Et en effet, Didier parlait de des luttes qui ont inspiré le mouvement d'abord homosexuel, puis maintenant LGBTQI+, qui était la question des droits civiques et la question du féminisme. Et en même temps, ces luttes-là étaient à l'intérieur de ce mouvement LGBT.
Alors ça, vous les traitez longuement dans votre documentaire, mmh. avec le sort réservé notamment aux femmes, mmh. et justement l'idée d'archiver, de faire des archives faites uniquement pour les femmes lesbiennes, ça a été un parti pris aussi de l'un de ces mouvements. Je vous propose d'écouter Barbara Hammer parler justement de cette condition des femmes et au cinéma en particulier des femmes lesbiennes.
That time I was just beginning to take up the camera.
Je commençais juste à prendre la caméra.
And my world changed from
mon
a heterosexual to
est passé d'hétérosexualité à homosexualité parce que vraiment mon sens du toucher, mon sens, ma perception de mon corps.
My aesthetic.
Vous savez, c'est-à-dire que mon esthétique est passée à être une esthétique lesbienne. C'est-à-dire que lorsque je touche une femme, un corps qui était proche du mien, eh bien cela renforçait mon sentiment et mon sens du toucher. Je voulais donc apporter au cinéma vous savez, une sensation kinesthétique, c'est-à-dire une sensation qui se rapproche entre le sens et le toucher. Alors, certaines personnes voient mon film, voient mes films, ressentent quelque chose de très fort parce qu'ils pensent que l'émotion est liée au toucher. Et lorsqu'ils voient mes films, ils ressentent leur corps, ils ont une sensation du corps qui est présent. Alors, c'est après devenu un cinéma très intellectuel dans les années 90. Mais au tout début, dans les années 70, il faut vraiment comprendre que c'était des films tournés sur le corps et sur les sens et le regard. Je voulais vraiment que les gens du public sentent leur corps.
Didier Roth-Bettoni, alors que les gens sentent leur corps, il y a un cinéma du toucher. Et même dans les années 80, Barbara Hammer, puisque là on parle des années 70, dans les années 80, elle dira encore « je voulais combler le vide de l'histoire lesbienne pour les lesbiennes ».
Oui, oui, c'est un...
Qu'il y avait une discrimination cinématographique aussi, d'exposition.
Il y a toujours une discrimination cinématographique. Enfin, l'histoire du cinéma est une histoire d'hommes. On le regrette. Enfin, moi, je suis le premier à le regretter. Mais l'histoire du cinéma, elle est écrite par les hommes. Les réalisateurs, les producteurs, ce sont des hommes. Dans l'essentiel de l'histoire du cinéma et dans les quelques femmes qui ont réussi à faire du cinéma grand public, du cinéma mainstream d'une certaine manière, elles sont très peu nombreuses. Et à l'intérieur de ce petit groupe, jusque dans les années 70, à l'intérieur de ce petit groupe, les réalisatrices lesbiennes étaient encore minoritaires. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, et Stéphane l'évoquait également, le fait de prendre en charge pour les homosexuels, pour les lesbiennes, et aujourd'hui pour les personnes trans, leur propre image, c'est une question essentielle. Et ce qu'a fait Barbara Hammer dans les années 70, en affirmant sa position de cinéaste féministe et de cinéaste lesbienne, c'est une position essentielle. Parce qu'il y a effectivement un manque absolu à combler, et un retrait par rapport aux hommes, et par rapport aux hommes gays, et par rapport aux hommes gays blancs, qui est infini.
Stéphane Gérard, on va voir que ça passe par des mesures pour récupérer ces archives lesbiennes qui ont été faites. Il faut justement trouver une femme qui puisse aller consulter ces archives-là. Ça passe par des mesures radicales nécessaires à éviter cette invisibilité.
Et avant de parler des lesbiennes dans ce cas, ce que je trouve passionnant, je vais continuer sur Barbara Hammer, qui, moi, je suis particulièrement ému là d'entendre sa voix. Elle nous a quittés en mars cette année, et c'est une réalisatrice qui est très importante aussi pour moi en tant que réalisateur, en tant que programmateur. On lui a consacré une séance complète dans le cadre de la rétrospective à la Cinémathèque française, qui était évidente autant pour Nicole que pour moi, et une séance qui était très émouvante, présentée par Nicole Fernandez-Ferrer du Centre de Visuel Simone de Beauvoir, qui serait, je pense, avec les archives lesbiennes de Paris, peut-être le pendant français pour le patrimoine de la culture lesbienne en France. Et je pense que ce qui était aussi très important dans le travail de Barbara Hammer, c'était qu'elle inventait, elle avait ce projet de proposer une esthétique qui était elle aussi nouvelle, qui était basée sur son identité lesbienne, mais qui repensait, et c'est aussi un peu de ça qu'elle parlait, le rapport entre corps et image dans la façon de le faire. Et c'était aussi un des fondements de la programmation qu'on a du coup fait avec Nicole Brenes, qui était de voir en quoi ces identités étaient à la fois le moteur de lutte politique et de recherche esthétique. Et donc en ça, elle est voilà, essentielle, je pense, dans cette histoire des images.
Alors dans cette rétrospective, il y a à la fois les films de création, il y a aussi les documentaires, beaucoup de documentaires, tous des films d'auteur, plutôt des films d'auteur. Je vous propose d'écouter un extrait d'un film qui est une référence, c'est Race d'Ep de Lionel Soukaz.
Je descendais une rue perdue dans un quartier périphérique à la recherche d'une pissotière mal famée. Sous un pont, deux loubards attendaient adossés à leur moto. Et quand je suis passé, ils m'ont crié, pas méchant, « Race d'Ep ». Comme j'étais ivre, il m'a fallu quelque temps pour comprendre. Les invertis ne parlent pas verlan. « Race d'Ep pour pédéraste ». Un instant, j'avais senti flotter derrière moi l'ombre d'une autre race. Ce cri, je l'avais moins senti comme une insulte que comme l'évidence résumée de mon appartenance à un autre monde, à une autre histoire. Une histoire pas si vieille, née il y a un siècle, et dont les débuts pourraient encore être comptés par des vivants. Naissance d'une nouvelle identité, devenue en 100 ans une quasi-nature. Ils apparaissent un peu avant le tournant du XXe siècle, mutant des arts de l'image et des sciences médicales, se découvrant progressivement à travers leur représentation comme une espèce particulière. Entre les guerres, dans les convulsions de l'Allemagne préconcentrationnaire, ils prolifèrent comme du chien-dent, construisant leur propre destin jusqu'à former une nouvelle définition de l'être humain, un peuple dispersé, un peuple sans mémoire, oublié aussitôt des expériences vécues et des exterminations. une conscience d'être autre qui n'est pas éternelle, mais n'est pas née non plus dans la libération américaine des années 60. Elle a eu, il y a un demi-siècle, son âge d'or, continent perdu, effacé par le bain de sang totalitaire. C'est cette histoire inconnue que ce film veut rendre visible au travers des images qu'elle a créées, l'histoire de la race Depp.
Didier Roth-Bettoni, à travers ce prologue très fort du film, on entend effectivement tout ce que charrie l'histoire de l'homosexualité ici et l'histoire aussi de sa représentation au cinéma, puisque on parle d'une espèce particulière, d'une espèce sans histoire. Se pose aussi bien sûr la question de la mémoire, puisqu'on n'est pas représenté. Alors est-ce qu'on existe vraiment? L'histoire des persécutions, bien sûr, qu'on a évoquée à travers le Triangle Rose. Alors pourquoi ce film est-il un film pionnier? Un film de référence?
Oh, c'est pour beaucoup de raisons, mais Stéphane
en parlera. C'est un film de 78.
Voilà, Stéphane en parlerait sans doute mieux que moi, puisqu'il travaille avec Lionel Soukaz depuis pas mal d'années maintenant, et de façon très étroite. Donc, oui, mais c'est un film jalon dans l'histoire. Alors, j'ai envie de dire d'abord dans l'histoire du cinéma français, dans l'histoire des représentations de l'homosexualité dans le cinéma français, c'est-à-dire que c'est peut-être le grand film militant homosexuel.
Qui retrace l'histoire.
Alors, qui retrace quatre moments de l'histoire des homosexuels sur un siècle. Mais c'est un film qui est fait avec une générosité assez incroyable, quoi, une implication de son auteur qui est vraiment fondamentale, et c'est ça peut-être qui caractérise ces films faits par les réalisateurs gays et lesbiens. Stéphane parlait très bien de Barbara Hammer, c'est exactement la même chose, c'est cette façon de se mettre en jeu soi-même.
Alors ça, il faut le raconter, Stéphane Gérard, dans ce film, Lionel Soukaz se met en scène, il danse sur une voiture, on le voit aussi se représenter dans une grande joie aussi personnel, une grande liberté, alors même qu'il évoque toutes ces questions graves.
Oui, alors il y a vraiment donc quatre parties. Le film est constitué en quatre parties, donc co-réalisé avec Guillaume Kingem, un des figures essentielles du Front homosexuel d'action révolutionnaire, dont on vient d'entendre la voix.
Phare dont on venait de parler, oui.
Voilà. Et donc c'est un travail qui était conjoint à un livre, et donc les deux portent le sous-titre Un siècle d'images de l'homosexualité. Donc dès le départ, il y a quand même cette volonté de ce projet, voilà, de faire une histoire, mais aussi une histoire en images. Et donc la partie que vous décrivez, qui s'appelle donc Sweet 16 in the 60s, c'est ce moment des années 60 qui correspond à la libération sexuelle et où justement il célèbre enfin la possibilité d'être libre dans son identité, de porter des pantalons moulants en tant que jeune homosexuel, de danser partout, de s'embrasser. Et illustrer tout ça mis en image avec des scènes de sexe entre des jeunes garçons et voilà, mais en même temps
des scènes de vie ordinaire, hein, je souriais, on me souriait.
Absolument.
Dit dans ce film. Alors, il y a des procédés aussi cinématographiques. Il y a ces images qui vont très très vite, c'est coupé très cut avec des images un peu subliminales qui passent, qui permettent d'instaurer des scènes homoérotiques aussi à l'intérieur d'un film plutôt documentaire. Mm-hmm. Il y a cette technique du found footage, de l'utilisation d'archives, qui est quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi, vous, Stéphane Gérard.
Mmh. Oui, je pense que c'est pour moi très important dans ma démarche de cinéaste, et c'est aussi pour ça que je me retrouve vraiment avec Lionel, de se rendre compte qu'il y a des images déjà existantes, qu'il y a une économie des images qui est un enjeu à connaître celles qui ont déjà été faites, à les mettre en avant et à les confronter à comment on se représente les choses aujourd'hui. Dans Race Depp, évidemment, le projet est fondamentalement organisé autour des archives, et dans la partie qui se veut la partie contemporaine, donc Royal Opera, adapté du livre du roman de Guillaume Kingem, Oiseau de la nuit, comme l'histoire est présente, est au présent, c'est des photographies de la scène qui se raconte qui viennent jouer ce rôle d'archive, et en même temps aujourd'hui ces images-là deviennent une archive à laquelle on rend très bien hommage dans l'exposition de Didier Roth-Bettoni sur quelle était la drague homosexuelle et gay
avec les lieux de rencontre à Paris, hein, il y a une cartographie de ces lieux. Alors une des grandes questions qui traverse aussi l'exposition Champ d'amour, c'est évidemment la question du sida, la tragédie qu'elle a générée dans les années 80 et par la suite, et comment elle a traversé aussi le cinéma. On va écouter 120 battements par minute, un extrait, avant d'en parler.
Comme vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, il y a des règles de prise de parole à ACT UP. Ce sont deux facilitateurs qui gèrent les débats. Vous allez pouvoir vous exprimer sur tous les sujets, mais d'abord, vous allez devoir lever la main, vous inscrire sur une liste et attendre votre tour de parole. Si jamais votre intervention est trop longue, le facilitateur fera ce signe. De même, on n'applaudit pas les interventions des autres. Si vous souhaitez exprimer votre approbation, vous pouvez simplement claquer des doigts, voilà, comme ça. Ça permet de ne pas couvrir la voix de celui qui parle et aussi de ne pas ralentir les débats. Enfin, une dernière chose que vous devez comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous êtes à ACT UP, quel que soit votre statut sérologique, vous devez accepter de passer aux yeux des médias et du public en général pour un séropositif. Voilà. La réunion va démarrer.
Alors là, c'est une AG d'ACT UP à laquelle on assiste dans 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, Didier Roth-Bettoni. Évidemment, la question du sida a traversé l'histoire du cinéma LGBTQI+, mais de diverses manières, il y a eu les premiers films, la première période, la période de l'hécatombe, avec un cinéma très noir qui est représenté dans l'exposition.
Oui, un cinéma très noir.
Un cinéma triste.
J'ai envie de dire un cinéma qui est marqué effectivement par ce saut de la mort quasi inéluctable qui était celle traversait ces années 80-90. Et en même temps, un cinéma qui est traversé aussi par une idée de solidarité, de communauté, de famille alternative qui se crée et dans lesquelles la survie est possible. Ou en tout cas, le combat est possible.
Et le soutien aussi.
Exactement,
l'accompagnement vers la mort,
le soutien et surtout le fait que de ne pas être seul face à la mort. Je crois que le cinéma militant LGBT de l'époque, gay de l'époque, qui prend en charge le sida, c'est aussi ça. C'est aussi un cinéma qui ne se contente pas d'être un cinéma doloriste, un cinéma victimaire. C'est un cinéma toujours de combat. Le cinéma devenant une arme de combat contre la maladie, une arme d'affirmation, une arme de revendication et d'affirmation collective, j'ai envie de dire. C'est ça qui est très qu'on a essayé aussi de montrer dans l'exposition, c'est à quel point cette tragédie est devenue une forme de d'affirmation d'une communauté face à son destin et face à la société.
Et en même temps, dans les années 80, des cinéastes non militants qui ne font pas partie des minorités LGBTQI prennent en charge aussi ce motif de l'homosexualité de manière plus ou moins convaincante. Je pense notamment à Cruising, qui va être un événement dans l'histoire du cinéma aussi, qui va mener lieu à des grands débats devant la communauté.
Là, c'est un peu plus tôt, puisque c'est 79.
79, oui, voilà. Les 80.
Donc donc, je veux dire, c'est avant le sida.
Avant le sida, oui.
Oui, effectivement, Cruising, qui est un film d'une major américaine, réalisé par Willard Friedkin, donc un des grands réalisateurs
du
nouvel Hollywood, et qui va provoquer, avant même sa réalisation, des réactions très hostiles de la communauté homosexuelle. Et en fait, d'abord, enfin, surtout parce que il n'y avait pas à Hollywood à l'époque de films parlant d'homosexualité de façon positive. Et donc il y a eu ce sentiment pour les homosexuels de se retrouver représentés dans le cadre d'un thriller avec un serial killer qui va assassiner des gays dans les milieux cuir américains. Donc ce sentiment d'être agressé, d'être représenté de façon extrêmement, là encore une fois de plus, très stéréotypée et très hostile. Et donc il y a eu une réaction de rejet du projet du film. Et une fois que le film a été vu, aujourd'hui, il apparaît comme un film extrêmement presque culte, un film très documentaire sur ce que pouvait être la scène festive et sexuelle américaine de cette fin des années 70.
Et pour savoir la suite, il faut aller voir cette exposition Champ d'amour à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'au 28 septembre et assister
exposition gratuite,
à l'exposition gratuite et à la rétrospective Libération sexuelle, Libération visuelle à la Cinémathèque jusqu'au 11 juillet. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Léonie Pernet, Two of Us, extrait de l'album Crave, sorti en 2018 sur le label Infiné. Léonie Pernet sera en concert le 27 juillet aux Nuits Secrètes à Aulnoy-Aymeri dans le Nord et le 1er août au Festival de Lunel dans l'Hérault. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est le moment de la deuxième partie de La Grande Table avec pour invité le performeur Justin Scholder. La voilà qui entre et se met à danser sur un fond de toile éclairé de rose et de bleu. Elle, c'est la créature, aux deux bêtes préhistoriques, jambes et sexe d'homme. Une créature que l'artiste a empruntée aux mythologies ancestrales queer et philippines, qui évolue sans cesse comme si elle accouchait perpétuellement d'elle-même. Le performeur se prénomme Justin Scholder. Il est parmi nous aujourd'hui autour de la Grande Table et ses propos sont traduits par Xavier Combes. Justin Scholder, bonjour.
Bonjour.
Là, ce qu'on entend, c'est les extraits de Carrion, une autre performance. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à ce moment-là?
Donc, j'ai un corpus qui s'appelle Carrion. Carrion, c'est un clown post-humain, inspiré de la préhistoire, mais en même temps, c'est inspiré de la pop culture contemporaine. À bien des égards, je crois que ce travail s'intéresse au passé pour essayer de comprendre l'évolution et la trajectoire de l'humanité. Dans ce langage, je puise dans les cabarets, dans les communautés des boîtes de nuit, les histoires qui s'inspirent de cet univers. Mais évidemment, la danse contemporaine n'est pas absente, loin de là.
Alors vous, vos performances, Justin Scholder, elles consistent à inventer des univers et des créatures. Ces créatures, elles sont tout autant mythologiques, anciennes. Alors c'est la mythologie philippine notamment, ce sont vos origines, les Philippines, même si vous êtes australien, vous venez de Sydney. Et en même temps, elles font allusion à un monde tout à fait contemporain, un monde même où il y a à la fois animaux et robots qui se mélangent et qui posent la question de ces limites de l'identité humaine.
Yeah, for sure. I mean, so much of my work is about what it means to be a hybrid identity.
Oui, tout ce que vous dites est juste. En fait, mon travail porte sur ce que c'est que l'identité hybride.
So, what it means to be.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être un Australien mais philippin en même temps?
What it means to be.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Human.
D'être humain, mais en même temps avoir une relation avec l'environnement.
To technology.
Une relation avec la technologie. J'ai toujours été attiré par les créatures de la mythologie. En effet, ces créatures sont très anciennes, elles ont une identité universelle, mais en parallèle, on les retrouve au cinéma, dans les comics, et puis dans les récits, dans les communautés.
Alors vous, des créatures, vous en avez créé beaucoup, une douzaine, je crois, et c'est dans la ville de Sydney, milieu particulier pour les performeurs. Depuis les années 70, peut-être vous pouvez nous parler de ça, puisque vous, vos créations, elles sont aussi inspirées par ce milieu de performeurs queer, et comme vous le disiez, ces performances se font beaucoup dans les nightclubs.
Yes, so I often talk about the nightclub being my education.
Oui, je dis que mon école en fait c'était les nightclubs, les boîtes de nuit.
Because although I have formal training,
bien que j'ai fait des études dans le domaine de l'art visuel et j'ai des diplômes universitaires, il y a pas mal de compétences de performeur et des éléments de mon langage de performeur qui sont le résultat de l'observation et de la participation dans le milieu des cabarets et des performeurs dans les boîtes de nuit, donc en Australie. Il y a une douzaine d'années, lorsque je commençais à vraiment sortir, j'ai rencontré plein de gens dans une communauté d'artistes qui s'expriment par leur corps et qui performent comme ça, à titre de communication, c'est comme ça qu'ils communiquent avec leur corps. Et j'ai compris que cette modalité d'existence et de partage était très très intéressante pour moi.
Formative.
Et évidemment, ça m'a beaucoup formé et inspiré.
Qu'est-ce qui est intéressant pour vous, le fait que ce soit vivant? Là, c'est la performance live. C'est ce qu'on va retrouver au Palais de Tokyo, même si ça s'insère dans le cadre d'une exposition collective avec une cinquantaine d'artistes, de plasticiens, de tatoueurs, de musiciens, de designers. Il y a l'exposition Princesse des Villes, où vos vidéos sont exposées. Mais vous, vos performances, vos quatre performances, elles viennent apporter une dimension directe, vivante. C'est le corps vivant et ces créatures auxquelles vous donnez vie qui vous intéressent comme geste artistique. Justin Scholder.
Oui, je suis particulièrement attiré par tout ce qui est échange avec le public. J'ai eu des conversations très très chouettes avec les artistes qui participent à cette exposition au Palais de Tokyo. Et nous avons trouvé évidemment plein de passerelles, de points communs entre les différents aspects de notre travail. Et les conservateurs ont conçu l'espace de manière assez particulière et intéressante. Donc c'est une espèce de métropole. Et moi, je joue le rôle d'un des éléments vivants qui est capable d'activer, d'animer des histoires réelles, vécues, des histoires et puis la notion de diaspora.
Alors, les histoires, notamment c'est l'histoire des Philippines que vous réactivez, puisque les Philippines font partie des villes qui ont été choisies, en tout cas Manille, des cinq villes choisies par les commissaires pour cette exposition, Manille, Dhaka, Lagos, Mexico et Téhéran. C'est votre identité philippine qui est mise en avant, même si vous arrivez dans un corps qui finalement est plutôt imaginaire. Justin Scholder.
Yes, so... In much of my work, it draws both from,
oui, une bonne partie de mon travail s'inspire de références de la culture pop,
really ancient,
mais moi aussi de la mythologie très très ancienne.
And I'm really interested in how,
et moi,
these
ce qui m'intéresse particulièrement,
like creation,
c'est la façon dont ces mythologies créatrices
from my lineage can be,
qui remontent à mes origines
made relevant,
peuvent s'exprimer en pertinence, mais aussi avec une dimension queer.
Alors c'est aussi le rapport à la nature qui est questionné. On entendait ce son avec des animaux recréés. Il y a aussi les bêtes que vous créez sont aussi comme une sorte de machinerie animale avec un système de prothèses, de costumes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce rapport justement à la nature que vous questionnez à travers cette idée des différentes identités de l'homme? C'est une nature polymorphe en quelque sorte, Justin Scholder.
I think, like, when I think about the history of mythological creatures,
quand on regarde l'histoire des créatures mythologiques ou les récits des conteurs, Dans une communauté, il y a des clowns ou des gens qui divertissent le public, mais qui ont des réflexions de politique, d'actualité politique. Et bien, pour moi, le but qui est le nôtre, c'est l'observation du changement climatique à l'ère de l'anthropocène. Par conséquent, j'utilise le domaine du fantastique pour questionner les anxiétés liées au dérèglement climatique, le capitalisme et puis les mouvements politiques auxquels on assiste à l'heure actuelle. Mais ce questionnement, j'essaye de l'inscrire dans un cadre qui ne se veut pas didactique. Au contraire, j'utilise le corps et l'aspect des cinq sens pour exprimer cela.
Alors le corps, Justin Scholder, votre corps à vous, utilisé sur scène, il est aussi violenté, retravaillé par la machine, par les prothèses. Et cette nature-là, elle est en quelque sorte concurrencée, ou en tout cas ces choses-là s'additionnent. On vous voit avec des sortes de prolongements d'écouteurs qui devient votre chevelure. On vous voit équipé de tout un tas de machines qui vous donne l'air d'être une autre forme de créature, presque de science-fiction.
For sure, I think I'm very interested in like what it means to be a contemporary cyborg.
Qu'est-ce que c'est qu'un cyborg? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un cyborg à l'heure actuelle? Parce que nous sommes déjà en train de baigner dans toutes ces mutations.
Even just simply through social media,
rien qu'avec les réseaux sociaux,
the way we frame
ou la façon
dont
on enregistre, on prend des photos, on communique, tout ça, c'est grâce à la technologie.
I use very,
par conséquent, j'utilise des images faciles à reconnaître.
For people to connect to,
ainsi, le public peut comprendre ce que c'est que d'être simplement un vecteur, porteur de toutes ces idées que nous apporte la technologie et l'évolution contemporaine.
Alors comment est-ce que ça se construit, Justin Scholder, une performance telle que celle que vous faites ces jours-ci au Palais de Tokyo, puisqu'il y a une part vivante, une part d'improvisation, une part liée à ce que va faire le corps dans l'instant, une part liée aussi au public, et en même temps, il y a tout un travail conceptuel d'imagination de ce décor imaginaire, de ce jeu de lumière, tout se projette sur un grand drap avec un jeu de transparence, et vous avez tout un tas de costumes qui vous accompagne avec cette idée de la chrysalide, de l'insecte qui en sort, de ces transformations. Alors, qu'est-ce que vous improvisez là-dedans?
I think I'm very drawn to images and I work a lot.
L'image joue un rôle très important dans mon travail et je rassemble des images et c'est ainsi que je conçois la performance comme une espèce de montage, de collage d'images. Donc, plutôt que d'imaginer une performance selon une modalité linéaire, moi, je fais un collage des différentes idées que je rassemble, j'improvise sur ces images, je crée des objets.
Parlez-nous de ces objets. Vous avez des collaborations justement avec d'autres artistes qui vous permettent de créer des costumes, d'ailleurs très hypnotiques, avec ces grandes toiles transparentes qui vous recouvrent, qui vous font ressembler à une sorte de papillon, avec des jeux d'antennes électroniques.
I've worked for a long time with my partner Matthew Stick.
Je travaille avec Matthew Stick, partenaire. Et on travaille ensemble depuis longtemps et avec les gens qui font cette partie de cette communauté assez large à Sydney. Au fil des années, à vrai dire, les choses ont commencé de manière très simple. Il s'agissait simplement de réimaginer une enveloppe corporelle avec laquelle je n'étais pas particulièrement à l'aise d'ailleurs. Puis au fil des années, donc, j'ai mis l'accent sur le potentiel de transformation, donc en travaillant avec des objets, des matériaux.
So for example, in Carrion,
par exemple, dans cette œuvre, Carrion, il y a un personnage qui est un tartigrade,
and then over time,
et petit à petit, le même costume
is used to become multiple
forms. Se mue pour revêtir différentes formes.
And, finishes as a,
et au bout du compte, ce personnage devient un oiseau préhistorique.
So there's a kind of back and forth between,
donc il y a des allers-retours
making prototypes,
entre la création de prototypes,
playing with the objects,
le fait de jouer avec les objets dans l'espace,
refining them,
le fait de les améliorer,
and then finding
et
their, most,
trouver
performance potential,
le plus de potentiel de performance dans ces objets.
Justin Scholder, je vous propose d'écouter la performeuse serbe Marina Abramović. C'était le 13 octobre 2017 sur France Inter.
Body is just the shell. Body is just
le corps, je crois que ce n'est qu'une enveloppe. C'est une sorte de contenant à l'intérieur duquel l'âme vit sa vie. Quand j'étais très jeune, quand je me suis lancée dans la performance, ça me passionnait de savoir ce que c'était le corps. Alors je suis allée dans les hôpitaux, dans les blocs opératoires, on m'a laissé assister à des opérations de l'estomac, du cerveau, de la hanche, etc. Et je regardais comment les chirurgiens ouvraient les corps, et ils avaient toutes sortes d'outils, des scies, des marteaux, des ciseaux, etc., juste pour réparer les corps, et puis ils arrivaient à refaire fonctionner ces corps. Alors, qu'est-ce que c'est le corps? C'est seulement une enveloppe pour l'âme.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Justin Scholder? Est-ce que pour vous, vous avez cette notion chirurgicale du corps, un corps qu'on pourrait remodeler, découper, un corps finalement dont on peut faire usage comme un créateur, comme si on créait une autre créature avec soi?
For sure, I often think of my body as.
Oui, je comprends bien ça. Mon corps,
something to be of service.
Je le vois comme un outil d'observation en quelque sorte. Je m'explique. Je le vois d'un point de vue métaphysique, mon corps. Voilà. Autrement dit, moi, je suis le vecteur du récit. Donc, à bien des égards, je suis d'accord avec ce que dit Marina pour ce qui est de réimaginer mon enveloppe, ma forme pour devenir différentes espèces, une chimère par exemple.
Vous nous avez pas parlé de la mythologie, justement, précisément. Quelles sont les bêtes, les créatures imaginaires que vous aviez envie, Justin Scholder, de ranimer à travers ces performances? Il y a Carrion, il y a aussi V. Il y a trois vidéos qui sont diffusées et il y a quatre performances, dont une qui aura lieu le 11.
Carrion is a body of work.
Carrion, c'est un corpus.
And it's not. It's kind of a figure that is a shape.
C'est un personnage qui en fait change de forme.
A figure that's both cellular.
Donc un personnage cellulaire.
It's data.
C'est aussi.
The figure is the environment.
L'environnement, les données.
The microscopic and the macroscopic.
On va du microscopique au macroscopique.
I'm moving in between.
Donc moi,
I guess like a chimera,
bouge un petit peu comme une chimère au milieu de tout ça, une figure qui est une combinaison de différentes formes.
Avec des limites assez floues entre votre corps et le costume, puisqu'on a le sentiment par moment que votre costume accouche de vous d'une certaine manière.
Yes, for sure.
Oui, c'est ça, oui.
There's often there's these cycles of both evolution.
Il y a des cycles d'évolution et de dévolution.
And so the idea is that nothing is linear.
Le concept, évidemment, c'est que rien n'est jamais linéaire.
It's cyclical.
Tout est cyclique.
I guess there is this confusion about.
Oui, c'est vrai qu'on voit pas très bien les limites de ce qui donne naissance à quoi. Et l'espace devient un personnage en soi aussi.
De même que la créature créée, puisque vous, vous en avez fait une douzaine, Justin Scholder, sont très métaphoriques aussi. Alors est-ce que le fait de faire appel finalement à l'ancestral, à la mythologie, pour parler aussi de modernité, de futur avec les prothèses et les robots, est-ce que c'est une manière de créer quelque chose d'assez universel finalement, la dimension philippine, la dimension australienne ou même l'identité queer, c'est bien au-delà de tout ça que vous vous situez dans cette performance.
Yes, I think it's been really interesting because I've toured.
Mais en fait, tout ça c'est très intéressant parce que cette créature, j'en ai fait des performances dans différents pays, dans différentes cultures. Et bien que je travaille dans ce domaine avec ces formes depuis une douzaine d'années, chez Carrion, il y a un élément qui fait bien réagir le public, j'ai remarqué. En effet, il y a un aspect d'horreur de la machinerie humaine qui ressort. Et peut-être qu'il y a une perte d'humanité, justement, ou une animalité, ou une perte d'animalité à laquelle les gens réagissent bien.
Alors vous travaillez aussi en musique, sur une musique qui elle-même rajoute à l'aspect hypnotique de la lumière, de ce corps. Vous êtes aussi à moitié nu, Justin Scholder, en tout cas pour la performance Carrion, ce qui rajoute une dimension, immersive dans ce côté naturel reconstitué, à la fois à moitié nu et en même temps vêtu.
Costumé.
Je travaille avec Carina Letter, compositrice, qui est en résidence avec moi d'ailleurs. Et sa musique, c'est un élément fondamental de mon travail, au même titre que la lumière et les costumes. Tous ces éléments, personnellement, je les vois comme des parties intégrantes de l'écologie de mon œuvre. Carrion, c'est la première fois que je révèle à ce point-là ma forme humaine. En effet, je veux trouver un moyen de communiquer de manière plus intime avec le public pour révéler le travail du corps en performance. Et du point de vue de la performance, je veux moi-même me lancer un défi.
Alors, c'est à la fois le fruit de collaboration pour les costumes, mais aussi ce travail musical. Vous avez eu des collaborations avec Matthew Sting, que vous avez évoqué, et aussi Benji Ra. Donc, il y a aussi cet univers-là de collaboration qui vous permet d'agir après en solo sur scène, Justin Scholder.
Yes, I think people. There's always a big team that's
involved. Oui, évidemment, je ne fais rien tout seul. Il y a un grand travail d'équipe dans tous ces projets.
They facilitate all the parts.
Et les différents collaborateurs se spécialisent dans tel ou tel domaine. Comme ça, moi, j'arrive seul sur scène, en effet, comme vous le dites.
I also have a dramaturge.
Et puis, j'ai un dramaturgiste,
Victoria Hunt.
Une dramaturgiste, Victoria Hunt, qui est mon mentor aussi. Et Victoria, elle, m'aide dans la formation corporelle. Elle m'aide à me former dans mes mouvements corporels pour que je trouve le moyen le plus précis possible pour communiquer les histoires que j'entends raconter.
Est-ce qu'il y a une sorte de fil qui relie vos performances les unes aux autres, qui font qu'elles ne sont pas des gestes artistiques isolés, Justin Scholder, cette performance Carrion se finit sur un oiseau et la prochaine, Skyward, justement, parlera de la conjuration d'un oiseau ancestral et elle va s'inspirer aussi de cette image. Est-ce que ce sont comme des perles qu'on enfile petit à petit et qui permettent de mener à une œuvre globale avec toutes ces créatures qui vous entourent?
Oui, en réalité, tout s'inscrit dans une cosmologie. Et chaque travail, chaque projet est la définition, en quelque sorte, du suivant. Et
peut faire un retour en arrière sur les projets d'il y a 5 ou 6 ans. Tout ça, ça fait partie d'un grand récit, oui. Moi, je m'intéresse beaucoup aux oiseaux, vous l'aurez compris. Et le lien entre les oiseaux et les dinosaures, d'ailleurs, m'intéresse beaucoup. Étant donné que j'ai une relation assez intime avec mes oiseaux, d'ailleurs, j'ai pas mal d'oiseaux chez moi.
Alors expliquez-nous ces oiseaux.
J'ai deux perroquets.
They freely roam in the house.
Perroquets qui sont libres dans la maison, hein.
And, I've built
a
relationship of communication.
J'ai bâti une relation de communication avec ces perroquets.
And I'm very interested in this kind of
interspecies. Cette communication inter-espèce m'intéresse beaucoup.
As a way to build empathy.
Parce que ça permet de bâtir de l'empathie pour les créatures avec lesquelles nous partageons notre planète. Mm.
Merci beaucoup, Justin Scholder, d'être venu parmi nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, ce jeudi 11 juillet à 20h15 au Palais de Tokyo pour assister à votre performance Skyward dans le cadre de la manutention. Vous pourrez également y voir l'exposition Princesse des Villes jusqu'au 8 septembre prochain. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour parler du droit à l'avortement, mis en récit notamment par la bande dessinée. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alexandra Brouillet, Pascaline Bonnet, Chouchane Djergaillan, Lou Lejoli et Julien Rosa. À la réalisation, Marie Placé, à la technique, Cindy Legrand. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.